Et aujourd'hui, nous sommes à Saulieu, dans le Morvan.
Aurélie Spez, rendez-vous, place du marché.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au marché de Saulieu. Alors hier, vous étiez en Normandie à Hérouville-Saint-Clair avec Antoine Lee. Et nous aujourd'hui, on est par ici, c'est la Bourgogne rurale et discrète. On est en plein milieu du marché de Saulieu. Et c'est un village qui ressemble à une petite ville, très élégante. Saulieu a de l'allure et tient bien son rang de porte d'entrée dans le Morvan. Un peu sauvage, pas si facile à apprivoiser, avec ses lacs muets et ses forêts discrètes. Hier, en discutant avec Rémi, qui connaît super bien la région, il me disait « Tu sais, le Morvan, c'est la Bretagne de la Bourgogne. On a des paysages granitiques, des rivières qui courent dans les forêts mousseuses, très vertes. Il y a un truc un peu celte ici, c'est comme ça. » Il a raison Rémi. On entend même résonner des cornemuses dans les ruelles de Saulieu qui bourdonnent avec les orgues bleus. Plus loin là-bas, il y a la Nationale 6, celle qui relie Paris à l'Italie. Image d'Épinal, route des vacances et carte postale, il paraît qu'avant l'arrivée de l'autoroute, tout le monde s'arrêtait chez Johnny Fuel pour faire le plein et manger un crapiaud dans un des 30 restaurants du coin. À Saulieu, ils ont gardé plein d'histoires en stock. Un bon coup de fourchette, un gros marché et un café que tout le monde connaît. Allez-y, c'est là-bas qu'on s'installe avec nos invités. On va se trouver une petite table en terrasse au Café Parisien. Et voilà, on est arrivé au Café Parisien. Jean-Marc Tingot, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le patron de ce café légendaire ici à Saulieu, le Café Parisien. Vous êtes aussi photographe. Et chez vous, c'est bondé parce que c'est jour de marché.
À chaque fois qu'il y a marché, le Café Parisien est le point de rencontre. Et ça, depuis fort longtemps. Le café date de 1832 et à une époque où il y avait beaucoup, beaucoup de marchés, en particulier de marchés aux bestiaux, mais aussi de marchés aux volailles. C'était le lieu où toute la population se retrouvait, toute classe sociale confondue. Et ce qui reste de ce café aujourd'hui, de Beaurès, on va dire, c'est une âme, c'est une atmosphère qui est très particulière. Et c'est ce mélange très, très étonnant entre des populations qui sont diverses, qui viennent d'ici, de là, d'ailleurs. C'est un espèce de melting pot. Et c'est aussi une sorte de... Moi, je compare toujours le café à un navire. C'est une espèce d'arche de Noé, en fait.
Cette arche de Noé, on y est bien, on est au comptoir ici. Vous n'êtes pas venu tout seul, Jean-Marc Tingot. Avec nous, il y a aussi Caroline Daroux. Bonjour Caroline, vous êtes ethnologue et vous dirigez la Maison du patrimoine oral de Bourgogne. J'imagine aussi que c'est un carrefour de rencontres.
Oui, c'est un carrefour de rencontres. Nous, on parle d'oralité. Alors, c'est quoi l'oralité ? C'est ce qui, au quotidien, fait qu'on tient tous ensemble. Les personnes vont comprendre où elles sont, ce qu'il y avait avant, où elles vont, rencontrer les autres autour d'eux, voilà, et surtout avoir des espaces pour être en rapport les uns avec les autres, autour de la parole, autour de la musique, autour de la danse, autour de ce qu'on fait au quotidien, tout simplement, quoi.
Autour de la musique, à ma gauche, avec vous aussi, Vincent Belin, bonjour. Vous êtes musicien, vous diffusez et vous défendez la musique traditionnelle et les cultures orales, un peu comme Caroline Daroux. Ici, mes versions musique avec votre cornemuse et puis avec tous les musiciens autour de ce Morvan, vous êtes le passeur.
Alors bonjour, oui effectivement, moi je suis donc musicien et passeur parce que je suis enseignant, parce que dans le Morvan, en fait, il y a plusieurs endroits où on peut apprendre à jouer de la musique traditionnelle. Donc moi je travaille au conservatoire du Grand Autunois Morvan, c'est à 30 minutes d'ici, à Autun. Et je travaille à Saulieu pour l'Union des groupes et ménétriers du Morvan, où on organise depuis plus de 20 ans un atelier régulier d'apprentissage de la cornemuse.
Cornemuse, musique, conte, histoire, légende, café, chablis, c'est quoi ce chablis, Jean-Marc ?
C'est un chablis premier cru de chez Dante, qui est une merveille.
On va se retrouver tous les trois. On va parler de tout, de Saulieu, du Morvan, de tout ce qui vous anime ici dans ce territoire. Mais avant, on va écouter un peu de musique. Vincent Belin, je vais vous laisser faire le DJ radio et lancer le disque. Qu'est-ce qu'on va écouter ? On va écouter Françoise Breu.
Dérives urbaines dans la ville cannibale.
Et c'est une programmation de notre ami Djoubaka.
Cherchant notre chemin, on s'était arrêté dans une ville éventrée, le monde s'embourbait dans les rues encombrées. Poursuivis par des averses sans fin, vite nous nous sommes engouffrés dans une bouche de métro édentée, un escalator mécanique désarticulé. On se pressait dans la mêlée sans s'entendre ni se parler. Entre deux souffles, nos sens à l'affût désorientés, on a suivi le flux, le flou flou de la foule. Comme un intestin, on a suivi les gens dans l'air moite, le fracas, tout devenait flippant. À coups de pelle mécanique frénétique, les bulldozers au-dessus nos têtes défonçaient les chaussées décrépites, ignorant les frêles, les mous, les neurasthéniques.
Les flics semaient le chaos avec leur sirène américaine. Entre deux souffles, nos sens à l'affût désorientés, on a suivi le
besoin de fenêtres ouvertes sur un panorama. Il se profilera lentement sur les crêtes, les sommets. Un soleil bien jaune étincelant qui nous aiderait à tenir verticalement. Éloigné du fil.
Vous êtes toujours sur France Inter et nous avons rendez-vous place du marché ici à Saulieu, dans le Morvan, c'est la Bourgogne. On est toujours au Café Parisien avec vous Jean-Marc Tingot, avec Vincent Belin, avec Caroline Daroux, et on vient d'entendre Françoise Breu qui chantait sa dérive urbaine dans la ville cannibale. On pense à Paris, on pense à une capitale où il y a foule, une capitale infernale, alors qu'ici on en est bien loin, on est quand même dans un café qui s'appelle le Café Parisien. Alors que Jean-Marc Tingot, patron du café dans ce petit village de Bourgogne, pourquoi il s'appelle le Café Parisien ici? Est-ce que c'est à cause de cette étape inévitable de la route nationale 6 qui reliait Paris à l'Italie?
Le café est vraiment le résultat d'une migration, d'une situation qui a fait que le Morvan et Paris ont toujours eu une relation privilégiée et une relation presque viscérale.
Vous racontez cette relation main dans la main entre Paris et Saulieu, entre Paris et le Morvan de manière générale. Et il y a cette histoire des nourrices, ce qu'on appelle l'histoire des petits Paris. Jusqu'aux années 70, l'assistante publique a placé des centaines de milliers d'enfants abandonnés ou orphelins dans des orphelinats ici dans le Morvan. On pense à Jean Genet aussi qui était pupille, et on les désignait par leur ville.
Il se trouve que même dans ma famille, j'ai un de mes grands-pères qui est d'assistance publique, qui a été abandonné à l'âge de 3 mois, devant le portail d'un couvent de Saint-Vincent-de-Paul. Et il n'avait ni nom ni prénom, il n'avait pas été déclaré. Et c'est les sœurs qui l'ont appelé, c'est un beau bébé, et l'ont appelé Beau, B-E-A-U. Et Saint-Vincent-de-Paul, elles l'ont appelé Paul. Oui, mais ça, c'est des formes de langage, justement, qui sont héritées de l'histoire, d'une histoire très, très populaire. Et Jean Genet, il a été recueilli dans une famille d'Aligny-en-Morvan. Sa famille venait pour le marché du samedi à Saulieu. D'une manière très intéressante, il fait partie de cette migration qui touchait tous les pays pauvres, toutes les régions pauvres. J'ai dit pays, c'est pas un lapsus du tout.
C'est petit pays de France. Caroline Darroux. Vous travaillez sur l'oralité ici à la Maison du patrimoine oral du Morvan. Ces histoires de petit Paris. Vous avez eu des grands-parents orphelins, comme Vincent d'ailleurs, je crois.
Oui, alors il faut savoir que c'est un peu général ici. Hein. C'est-à-dire que quand vous êtes en 1925 dans le Morvan, il y a des classes d'école où il y a 85% des enfants qui sont de l'assistance publique.
Dans le Morvan, pourquoi particulièrement ici ?
Alors, il y a deux raisons. La proximité de Paris, c'est ce que vous avez dit hein, au départ, mais c'est aussi le besoin de main-d'œuvre, parce qu'ici, il n'y avait plus personne. Voilà, il y a beaucoup d'hommes qui étaient morts pendant la Première Guerre mondiale, il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui sont partis soit en nourrice, soit pour vendre leur force de travail, pour transporter le bois, etc. Donc, enfin, il y a des villages où il n'y avait plus personne pour bosser. Hein. Donc, cette main-d'œuvre... C'était ses enfants aussi, étaient aussi vus comme des bras. Et puis, ils venaient, quand ils étaient placés, on donnait un pécule aussi, un peu d'argent à la famille qui... Voilà. C'est une histoire où il y a beaucoup d'attachements très forts. Moi, par exemple, mon grand-père, il a été accueilli par une vieille femme qui était toute seule, qui était veuve, etc., et qui était un peu reléguée par le village, mais qui aimait beaucoup mon grand-père, qui avait vraiment beaucoup d'attachement pour mon grand-père. Donc, mon grand-père avait beaucoup d'attachement pour sa mère... La femme qui l'a accueillie, qui l'appelait...
Sa nourrice.
Voilà, il ne l'appelait pas nourrice, il l'appelait...
Il l'appelait comment ?
Il l'appelait Lise. D'ailleurs, il a voulu se faire enterrer dans la même tombe, donc c'était vrai, voilà, c'était fort.
Voilà, ça, c'est quand ça se passe bien, mais j'imagine voilà. Qu'il devait y avoir des familles qui, pour toucher le pécule, adoptaient un enfant orphelin et ça ne se passait pas toujours très bien.
Bien sûr, et il faut aussi se rappeler que la place de l'enfant, elle a beaucoup changé hein, dans la société française depuis les années 1901.
Côté Les Misérables de Victor Hugo, quoi, hein, dans ce que vous racontez là. Moi, dans ce que j'ai lu dans certains articles, c'est un monde dur.
C'est un monde dur, c'est le monde de la pauvreté. Par exemple, si on parle des nourrices, c'est-à-dire ces femmes qui venaient d'accoucher et qui avaient du lait, elles laissaient leur enfant alors qu'elles avaient du lait qui était destiné à leurs propres enfants, et elles partaient nourrir les enfants de la bourgeoisie ou de la noblesse parisienne. Et cette période-là correspond à une période où la mortalité infantile dans le Morvan a été très grande.
Ce à quoi on est attaché à la Maison du patrimoine oral de Bourgogne, justement, c'est de comprendre de l'intérieur tout ça. De quoi on hérite quand on fait partie de cette épopée-là ? Et comment on peut re-raconter l'histoire depuis notre point de vue, qui est celui de cet attachement à ce pays, en fait. Et tout l'enjeu, c'est de raconter que c'est la grande histoire du capitalisme national, tout ça. C'est pas des gens qui étaient moins aimants, etc. C'est parce qu'ils avaient cette place-là dans cette histoire de l'économie de la révolution industrielle du 18e et du 19e siècle, qui était une économie de progrès urbain. Mais pas de progrès rural.
Jean-Marc, pourquoi vous avez les larmes aux yeux ? Pourquoi ça vous touche autant, cette histoire ? Tout d'un coup, la bam, ça vous prend. Vous en parliez avec votre famille de tout ça ?
Pas trop. Le Morvan, c'est un pays taiseux. On parle pas beaucoup. Ouais. On est dur au mal. On se plaint jamais.
Vous faites quoi ? Vous faites votre part ?
Je fais ma part.
Vincent. Oui. Vincent Belin. Vous aussi, vous êtes héritier de cette histoire par rapport à votre famille ?
Ben, je suis héritier.
Tous les trois, j'apprends quelque chose, je découvre une histoire avec vous.
Moi, mon arrière-grand-mère, Charlotte Brooke, qui était née dans le 13e arrondissement, ses parents étaient chanteurs de rue, et elle s'est retrouvée donc à 9 ans à Saulieu. En tout cas, cette histoire de migration entre le Morvan, Paris, Paris-Morvan, ces allers-retours comme ça, ça touche aussi le monde de la musique, hein, parce qu'il faut savoir que la plupart des grands musiciens morvandiaux, qui sont un peu nos modèles, qui ont été érigés en modèles en fait, la plupart ont joué à Paris, dans les bals du quartier de la Bastille. Hein. Ouais. parce qu'ils ont joué énormément avec les Auvergnats.
Ça me plaît bien que vous parliez d'Auvergne, parce que je trouve que ça se ressemble aussi, ces petites montagnes, avec un regard complètement extérieur, voire exotique. C'est cette correspondance avec l'Auvergne et avec la Bretagne aussi.
Alors c'est parce que c'est un paysage granitique, voilà, qui fait que ben, tout de suite on voit des amas de rochers. Ça fait penser effectivement à la Bretagne ou à l'Aubrac, voilà, hein, y a ça.
La réalité c'est que le Morvan est une partie du Massif central géologiquement. Donc cette familiarité du sol, d'attachement au terroir, elle est évidente dans la géologie.
Caroline, pour moi il y a autre chose qui est peut-être pas forcément palpable quand on passe. Mais quand on y est, c'est très palpable. C'est qu'en fait, c'est des endroits où on n'est pas nombreux. On est très souvent seuls, nous. On vit beaucoup seul, on se promène seul, on pense beaucoup. Et en fait, toutes les présences qui sont là, c'est-à-dire que ce soit les arbres, que ce soit les bêtes la nuit quand on rentre en voiture, ou que ce soit les gens qui sont plus là, qui sont plus vivants, ils ont beaucoup de place, en fait, dans ces territoires.
Vous stockez les histoires, Caroline. Vous récoltez les histoires, vous collectez les histoires des gens d'ici. Qu'est-ce que ce Morvan nous raconte comme histoire? Et qu'est-ce qu'on en garde surtout? Ça se transmet de bouche à oreille. Et qu'est-ce qui se dit?
Il faut comprendre que c'est un quotidien, en fait, où nous, on a plein d'histoires tous les jours qui ne se ressemblent pas du tout. Mais du coup, par exemple, hier, on est venu me parler de ce qui se passait dans le maquis pendant la Deuxième Guerre mondiale, juste à côté d'Anneau, dans la forêt. Donc on m'a raconté une histoire qu'on essaye de retrouver parce qu'il y a des gens qui sont encore vivants, des gens qui sont morts. Alors on n'est pas sûr que c'est vrai. Alors on cherche à avoir des indices et on essaye de retrouver cette histoire-là. La semaine dernière, il y avait un jeune homme qui cherche dans les archives départementales de Mâcon les traces de personnes qui ont été emprisonnées dans la petite prison d'Autun. Et en fait, il a rencontré une femme qui s'appelle Jeanne Buchiot, qui est née à Lucenay-l'Évêque, qui est partie dans l'Algérie française, et puis qui est devenue poète révolutionnaire, et puis qui a été enfermée pour cris séditieux, qui est revenue dans la prison d'Autun et qui a jamais voulu s'arrêter de dire ses poèmes dans la prison, jusque dans le cachot. Et nous, on se dit, pourquoi cette oralité-là, en fait, c'est celle qu'on ne réussit pas à enfermer, jamais. Les vagabonds, c'est souvent des musiciens. Tout ça, ça ne se laisse jamais enfermer. Donc du coup, il y a des espaces de maillons de chaîne qui se sont cassés. Donc nous, en fait, on essaye de refaire un maillon. Ça peut être par un livre, ça peut être par des rencontres en physique, en vrai, ça peut être par des disques de musique. Il y a toutes sortes de façons d'écrire pour que la chaîne de transmission se reconstitue, quoi.
Vous, Jean-Marc Tingot, vous avez une histoire que peut-être Caroline Darroux pourrait collecter. Vous êtes petit garçon. Allez, vous êtes garçonné. Vous habitez à Saulieu et vous regardez à travers la vitre de la brasserie du Café Parisien, un café qui est un peu laissé à l'abandon. Vous regardez à travers les vitraux fumés, vous observez l'intérieur de ce café vide et vous rêvez, vous vous projetez dedans.
C'est sûrement l'origine de ce qui est devenu ma vocation de photographe. Et je suis très étonné du parallélisme qu'il y a entre les recherches que tu fais à Anneau et puis le travail de photographie que j'ai pu faire. Commençons dans le Morvan, revenons comme le saumon à la source et enregistrons visuellement en tout cas.
Photographions les gens d'ici, c'est ce que vous avez fait. D'ici.
Je me rappelle m'être arrêté dans un endroit qui s'appelait Palmarou, qui est un petit hameau de Montsauche, près d'ici. Et j'ai enregistré de manière sonore un vieux paysan qui ponctuait toutes les deux phrases, sa parole, par « on ne peut pas aller contre ». Ça revenait comme ça,
comme une ritournelle, un refrain.
Très intéressant, très significatif par rapport à l'état d'esprit ici. On est dans une sorte de fatalisme actif, mais tout de même, on a conscience que la nature est là, qu'elle impose ses contraintes qui sont rudes. Il suffit de passer un hiver dans le Morvan pour le comprendre. Et ce leitmotiv, cette parole populaire qui rythmait son langage, moi, elle m'est toujours restée à la mémoire parce que c'est tellement, ça cristallise tellement la situation de cette région.
Et d'ailleurs, vous nous le disiez hier, Jean-Marc. Vous nous disiez ici à 2 heures de Paris, post-pandémie, les Parigots débarquent, s'achètent des maisons. Et dès que l'hiver arrive, et avec la fracture numérique en plus qu'il y a un petit peu ici quand même, on revend la maison et on retourne à Paris, parce que c'est trop dur.
Je pense qu'en majorité, c'est le schéma. Il y a quand même des gens qui ont résisté et qui se trouvent être maintenant attachés au pays. Quand on est attaché à une terre pareille, aussi ingrate, aussi difficile, on a du mal à s'en tirer.
Vincent Belin, vous êtes revenu à Saulieu, vous habitez à quelques mètres d'ici.
C'est ça, moi j'habite à Saulieu. Alors, en fait, moi j'étais à Paris, j'étais étudiant, je commençais à jouer de la cornemuse, j'ai fréquenté plein de milieux différents, des milieux bretons, des milieux auvergnats, etc. Et par le plus grand des hasards, à la Mission Bretonne, dans le 14e arrondissement, il y avait une soirée avec des musiciens morvandiaux, donc Raphaël Thierry, qui à l'époque habitait Saulieu, qui habite à Nau maintenant, Jean Léger, moi, toute une équipe comme ça de musiciens morvandiaux.
Une bande, quoi.
Toute une bande. Et là, moi, je les connaissais pas, en fait. On était du même coin, et je me disais, mais il y a ça chez moi, en fait, et je ne le savais pas.
C'est-à-dire que vu de loin, vu de l'extérieur, on voit mieux son pays que de l'intérieur.
Ouais, ça, c'est une certitude. Je pense que pour plein de gens, ça fonctionne comme ça. Et en tout cas, moi, c'est ce qui m'a donné envie de revenir ici. Voilà. Et en fait, moi, je suis revenu ici donc à 23 ans et je jouais déjà un petit peu, mais je voulais vraiment me parfaire. Pour moi, c'était l'endroit où il fallait être, quoi.
Pour clôturer cette première partie, j'aimerais savoir ce qui vous lie autant au Morvan.
Ce qui me lie au Morvan, c'est que c'est très dur, parce que c'est un milieu où il y a beaucoup d'hommes, de vieux hommes, qui longtemps ont été aux manettes un petit peu, parce que c'est un territoire vieillissant, enfin, etc.
Aux manettes agricoles aussi.
Aux manettes agricoles, aux manettes politiques, aux manettes des décisions, voilà. Moi, ça fait 20 ans que je travaille ici. J'ai fait ma place, petit à petit, en faisant, comme on m'appelle aujourd'hui au conseil départemental, ma petite peste. Parce que, en fait, pour pouvoir exister dans ces espaces-là, il faut faire sa petite peste. Et du coup, dire, ben voilà, non, là, oui, je suis d'accord, là, je ne suis pas d'accord, etc. Et toujours rester à la table dans la discussion, tout en n'étant pas d'accord. Cet endroit m'a appris le débat. Cet endroit m'a appris qu'on peut s'engueuler tout en restant dans la même histoire et tout en faisant avancer les choses ensemble. Et c'est très précieux, je pense.
Comme disait Jean-Marc Tingaud, on est taiseux ici. On n'est pas dans un pays de gouailleurs non plus.
Ben c'est peut-être ça qui peut me permettre de mieux vous répondre par rapport à ce qu'on fait à la Maison du patrimoine oral de Bourgogne. En fait, je pense que ce qu'on fait le plus, c'est d'accompagner les gens à parler, de trouver les questions qui les aident à dire ce qu'ils veulent, d'avoir la possibilité de garder la trace et de mettre en valeur ce qu'ils disent.
Et vous, Jean-Marc, qu'est-ce qui vous lie à cette terre ?
Je fais partie des gens qui ont eu la chance de voyager dans le monde entier, sur tous les continents. Et comme le saumon, je reviens là. Mais c'est un voyage intérieur. Les Arabes diraient mektoub, une espèce de chose qui a à voir avec la destinée. Je pense que le mektoub, c'est vraiment quelque chose qui appartient à la langue arabe, mais qui s'appliquerait également chez nous. C'est l'addition, la cristallisation de plein de micro-événements qui font que la vie existe, on parlait de transmission tout à l'heure, qu'elle se transmet, qu'elle évolue. Donc les uns et les autres, d'une certaine manière, musicalement, oralement, au niveau de l'image, on travaille sur ce même terrain.
On apprend mieux à se connaître aussi en écoutant les autres récits.
Évidemment. Ah ben, évidemment, on en apprend sur nous. Le fameux « connais-toi toi-même », il passe par la connaissance des autres. Et les autres nous enrichissent. C'est pour ça que la solitude qui nous a été imposée dans les temps derniers, qui nous a été imposée pour des raisons que je ne conteste pas, pour être clair, elle a été dure à vivre. Moi, je vois au bar ou à la terrasse du café des gens que je retrouve jour après jour. Et petit à petit, ils reprennent, je dirais, goût à la vie.
C'est vraiment primordial, quoi. Le lien à l'autre, reprendre les habitudes qu'on avait, pouvoir parler à son voisin, boire un coup, voilà, c'est la vie, quoi.
Du marché au café, c'est une continuité de l'un à l'autre.
Tout à fait.
Merci beaucoup. Merci Caroline Darrou. Merci Jean-Marc Tingaud.
Merci.
Merci, avec plaisir. À tout à l'heure.
À tout à l'heure. Nous, on va déambuler dans le marché avec Vincent Belin. Parler musique. Bye bye.
Au revoir.
Alors là, on est dans la rue du marché, Vincent ?
Rue du marché, voilà, qui joint en fait la mairie. On passe devant la basilique Saint-Andoche, chef-d'œuvre de l'art roman.
Saint-Andoche, il paraît qu'il y a des orgues bleus dedans.
Il y a des orgues bleus du 18e qui ont été restaurés il n'y a pas très longtemps, voilà.
C'est très très beau ce lieu.
Matsuri.
C'est chic, c'est élégant, c'est... ça a de la tenue, quoi.
Voilà, c'est ça. C'était la ville d'étape entre Paris et Lyon, hein, depuis Madame de Sévigné. Tout le monde s'est arrêté à Saulieu. Moi, c'est ce qui me plaît. Tout à l'heure, on parlait justement de ce qui nous attachait aussi un petit peu au Morvan. Moi, je pense que cette région, cette partie-là, en tout cas, c'est vraiment ce lien entre le sud et le nord, quoi. On est entre la Méditerranée et le nord, quoi. C'est un monde entre le monde méditerranéen et le monde de l'Europe du Nord, quoi. Moi, c'est ce qui me plaît, en fait.
Vincent, cette ligne qui relie le nord au sud, cette diagonale qui va de Paris à l'Italie, c'est la Nationale 6. Alors pour ceux qui n'aiment pas prendre l'autoroute, vous aurez peut-être la chance de croiser Johnny Fuel dans sa station-service qui vient de là, qui vient du blues. On vous emmène.
France Inter. Rendez-vous place du marché.
Alors Johnny, on est dans votre station-service. Vous avez une station-service à l'ancienne?
Je pense que c'est peut-être une des plus anciennes stations de France qui fonctionne et qui est toujours en activité et que je fais toujours le plein des voitures et qu'on n'est pas avec du 24-24, quoi.
On est au bord de la Nationale 6. Cette Nationale, elle va d'où à où?
Alors logiquement, elle part de Paris et elle va jusqu'au Mont-Cenis, pratiquement en Suisse.
Sur les chemins de vacances?
La route des vacances.
La route des vacances.
Il y a la Nationale 6 et il y avait la Nationale 7. Voilà.
Alors, votre station-service, Johnny, c'est à la fois votre lieu de travail, mais on peut aussi se recueillir devant le mausolée de Johnny Hallyday. Parce qu'en face de nous, il y a une peinture hyper réaliste, en noir et blanc, de Johnny sur tout un mur. Et il y a une pancarte avec écrit « Ceci n'est pas un musée, mais une station-service. Je vous fais plaisir, les photos, c'est bien, ok, mais un demi-plein, ça me ferait du bien ».
Ben oui, c'est ça, c'est un peu comme on a un bar. Je suis là aussi pour vendre de l'essence, hein. Mais je suis content de leur faire plaisir. Si, en plus, ce portrait de Johnny, voilà, puisque là on est à la radio, c'est vraiment que son visage. Et j'ai voulu un visage, pas le Johnny chanteur, le Johnny pensif. Voilà, je voulais mon Johnny et vous marchez à droite, à gauche sur 10 mètres, le regard suit.
C'est votre Johnny Joconde?
Oui, c'est ma Joconde, oui.
Il vous suit du regard.
Ouais, il me suit du regard. Et il me dit, arrête de faire le con, des fois. Faut pas trop que je parle, parce que je sens déjà que ça monte. Il est décédé depuis le 5 décembre 2017. Et vous voyez, rien que d'en parler, je pars en live, quoi. J'ai pas fait mon deuil encore.
Bah, vous avez perdu un copain?
Un copain, un frère, un père. Et quand on voit les chansons qui sont écrites, on a l'impression, comme beaucoup de fans, que les chansons, ils les ont écrites pour nous. Quand vous prenez Diego, par exemple, elle est chantée par France Gall, mais comme dirait l'autre, il n'y a que par Johnny qu'elle ressemble à quelque chose, quoi. Personne d'autre peut chanter Diego, quoi.
Qu'est-ce que vous avez en commun, Johnny, avec Johnny?
L'amour de la fête, l'amour des femmes, l'amour des voitures, l'amour des motos.
La liberté.
Voilà, c'est ce que j'allais dire, la liberté de pouvoir bouger, de faire ce qu'on veut quand on peut. J'ai eu mes grandes périodes de doute. Voilà, et comme tout le monde, on a des histoires d'amour plus ou moins longues, tout ça. Il y a des moments de déprime, comme beaucoup, qu'on a envie de s'en mettre une dans la tête. Et après, il arrive un moment, je sais pas si c'est, si pour moi, c'est une chance pour moi. J'ai eu de la chance de rencontrer une femme, bon, que je connais depuis longtemps, mais qui est avec moi depuis pas longtemps avant la mort de Johnny. Et j'ai l'impression que, bon, je crois pas en Dieu ni rien, mais j'ai l'impression que c'était écrit pour que, quand elle est arrivée, qu'elle me pose. Parce que peut-être que comme d'autres, j'aurais peut-être fait le con si Johnny était parti, j'avais personne à me raccrocher. C'est dur, hein.
C'est dur, hein.
J'ai l'impression d'y avoir une psy en face de moi.
Mais non, mais vous allez y arriver, Johnny.
Oui, oui, non, mais maintenant je suis parti pour. Oui,
on
oui.
va s'en sortir.
Maintenant, je me dis que là-haut, il est en train de boire des canons avec Coluche, avec ça. Gainsbourg et tout. Et puis, ben, on les rejoindra le plus tard possible, quoi.
Ouais, puis vous êtes un grand gaillard hypersensible avec votre t-shirt Route Nationale, Saulieu France, votre station-service. Enfin, vous avez peur de rien, Johnny.
Non, j'ai plus peur de personne. Non. Comme dire l'autre, j'ai besoin de personne, Bernard Lee Davidson, mais c'était pas de lui, ça.
C'était l'autre.
C'était l'autre.
C'est pas surprise si je dis à m'abchanter pour ouvrir les mesures qui ont passé, pas quoi m'abchanter payer. Nous pas mon la grande société, n'a pour les sujets croisant dit maman, plutôt nous chanter souple, relais l'espoir côté lié, pour nous pas chérie, c'est où toute vie, détermination. Geste tendresse, affection manquée, tout ça cause des situations. Garde l'anger, garde l'anger, c'est que nous tous des caprochés, maman. Contendez-moi de m'arriver, maman, pas gain, jour sacré. L'issoute est à l'exister, la caille flérose pas rentrer. Chercher la vie pour m'pas qui tout souffrir. C'est pas un vie manqué, pareil, c'est je pas nous un peu corriver. Où est que moi dévoué? Chercher la vie pour m'pas qui tout souffrir. C'est pas un vie manqué, pareil, c'est je pas nous un peu corriver.
Nous sommes toujours à Saulieu, en Côte d'Or, et c'était Leïla Makkala qui chantait « Maman ».
France Inter. Rendez-vous place du marché. Aurélie Spez.
Vincent Belin, on marche tous les deux ici dans ce marché, à Saulieu, aux portes du Morvan. Vincent Belin, vous êtes musicien.
Oui.
Vous défendez la musique traditionnelle au bon sens du terme. Qu'est-ce que c'est que le bon sens du terme de la musique traditionnelle ?
Alors, la musique traditionnelle, non, ça n'est pas que du folklore. Le folklore fait partie aussi de la musique traditionnelle, mais la musique traditionnelle, c'est un ensemble bien plus large, en fait. On va prendre une mélodie et on va la jouer à notre sauce. Il n'y a pas de règle, en fait. Hein. Ça laisse une part de liberté.
D'improvisation.
D'improvisation également, de variation.
Pourquoi c'est une terre de musique, spécifiquement ici ?
Alors pourquoi? En fait, c'est une histoire très ancienne. Hein. Tout à l'heure, on parlait de la cornemuse. Je disais que la cornemuse, à Saulieu, Rabelais en parlait au XVIe siècle. Hein. Dans son tiers-livre, il parlait de la cornemuse vilactique comme une cornemuse de Saulieu. Plaisante et vilactique, donc c'est-à-dire villageoise, comme une cornemuse de Saulieu. Il y a eu tout un renouveau des musiques traditionnelles françaises, hein, avec la création de folk clubs.
Dans les années 70.
C'est tout à fait ça. Et ici, dans le Morvan, en fait, il y a eu des associations issues de ce mouvement revivaliste. Donc c'était les Pouellets et du GMM.
Donc c'était un mélange hippie-tradi.
Et un petit peu, on va dire ça comme ça, mais avec aussi des gens qui venaient du folklore. Et il y avait un instituteur à ce lieu qui s'appelait Monsieur Chaventon, Gérard Chaventon, qui a eu la bonne idée de mettre de la musique et de la danse à l'école élémentaire. Juste là, l'école, elle n'est plus là maintenant, mais c'est l'école Monge. Et donc les petits Cédélociens venaient apprendre à jouer de l'accordéon, de la vielle et à danser.
Vincent Belin, vous parlez de cornemuse, qui vient en fait de toute la Méditerranée, la cornemuse. On l'associe à des territoires particuliers, comme la Bretagne, ou comme ici, ou parfois le Cantal. Mais la cornemuse, elle est européenne, elle est même mondiale, on l'a partout.
En fait, la cornemuse, c'est une très vieille histoire, c'est un instrument très ancien, hein, il a plus de 3000 ans. Il naît avec l'agriculture, en fait, hein, la domestication des animaux.
C'est ça, l'appel du berger.
C'est ça, c'est lié au berger, c'est lié à l'élevage. Et puis on va la retrouver dans le Proche-Orient, la Grèce, l'Italie, etc. Et puis toute l'Europe et... Peut-être que les îles britanniques ont été les dernières à avoir été servies, quoi. Peut-être. Mais en tout cas, dans le centre de la France, c'est un instrument dont George Sand a longuement parlé. Hein. Elle a écrit un roman qui s'appelle « Les maîtres sonneurs », qui raconte l'apprentissage d'un jeune cornemuseux berrichon qui va aller apprendre à jouer de la cornemuse avec des maîtres du Bourbonnais. Et l'histoire se termine tragiquement dans le Morvan. Elle nous a taillé une veste pour l'éternité, George Sand. Mais bon...
Comment ça finit ?
Ça finit que, en fait, il y a une sorte de jalousie entre des musiciens du Morvan et ces musiciens du Berry. Et en fait, ils le tuent. Voilà.
La cornemuse ?
On lui casse le grand bourdon de la cornemuse sur la tête. Donc il meurt, on le retrouve dans le fossé. Il faut savoir qu'à l'époque... Tué par une cornemuse, parce qu'à l'époque, on disait dans le Morvan que pour apprendre à jouer de la cornemuse, il fallait signer un pacte avec le diable. Et que normalement, le diable, un jour, venait reprendre ce qui lui était dû. Donc il tuait le musicien pour récupérer son âme.
Faites gaffe à vous, Vincent.
J'ai pas signé de pacte, hein. Non, non, ouais, non.
Vous n'avez pas
non.
signé de pacte avec
non,
le
non,
diable.
Non, 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 c'est pas fait ça.
Non, c'est pas fait. Peut-être que vous savez pas. Ah, peut-être que lui, il a signé avec vous.
Alors oui, peut-être. Ça arrive des fois. Je suis pas. Oui, effectivement, il y a des choses. Des fois, on ne se rappelle pas. Mais bon, je crois pas. Non, non.
Vous êtes maître sonneur. On dit souvent qu'on a l'instrument qui nous ressemble. On dit oui, cet enfant, il a choisi la trompette pour se faire entendre parce qu'il avait des choses à dire avec un instrument puissant.
D'accord.
Est-ce que vous étiez ce garçon un peu timide qui avait besoin de se faire entendre?
Alors il y a sûrement de ça, parce que moi je suis pas quelqu'un de très expansif, je suis plutôt discret. C'est vrai que je joue pas d'un instrument discret. Alors il doit y avoir de ça. En tout cas, moi je pense que tout le monde peut jouer de la musique et c'est une histoire d'affinité, quoi. Faut trouver le bon instrument en fait, c'est ça le plus compliqué.
Au loin là-bas, on entend vos élèves, vos trois élèves, trois garçons entre 10 et 13 ans qui sont en train de répéter. Ils se sont assis sur le petit muret, là.
C'est ça.
Pendant et là, que nous, on fait le tour du marché.
Et là, ils sont en train de répéter. Et là, ils jouent un morceau qui s'appelle « Place du marché ».
Ça, alors ?
Une composition d'un...
Est-ce qu'elle est bien faite, cette émission ?
Elle est bien faite. Hein. C'est une scottish qui a été composée par Pascal Kranga, qui est un vielleux de Saône-et-Loire. Et donc, ça s'appelle « Place du marché ».
On est « Place du marché ». On est sur France Inter. Vous avez rendez-vous ici à Saulieu, dans le Morvan. Et on va rencontrer un petit peu les gens.
Bonjour, madame.
Qu'est-ce que vous faites? Ça remballe?
Ça remballe.
Ça remballe
oui.
Le miel?
Ben voilà, oui.
Le miel, le pain d'épices?
C'est la fin du marché, oui. Après 35 ans de bons éveils au service.
35 ans?
35 ans de marché, oui.
Ben vous remballez pas pour toujours, vous remballez ouais, jusqu'à la semaine prochaine.
On n'est pas encore pas mort. Hein.
Ah, on n'est pas mort. Il paraît qu'on vient de loin ici pour goûter les produits.
Oui.
De toute la Bourgogne.
Oui, et puis du Paris surtout. Hein.
Ah, de Paris?
Oui, il y a beaucoup de Parisiens qui viennent en vacances dans le Morvan.
Vous les aimez bien les Parisiens ou...
oh, bah oui, parce qu'ils achètent bien. Et puis...
Ils achètent?
Oui, ils achètent, oui. Ouais.
Ils viennent faire du stock ici?
Oui, voilà, oui. Ouais. Ouais. Ouais, ouais.
À côté de vous, votre collègue?
De chèvre, fromage de chèvre.
Fromage de chèvre et miel, ça marche bien ensemble?
Oui, moi je mange pas de fromage de chèvre même.
Ah, vous mangez pas de fromage
non.
de chèvre?
Non. Je m'appelle Seguin.
Vous vous appelez Monsieur Seguin?
Oui, Monsieur Seguin, oui. Donc,
vous vous foutez de nous hein.
Non, non, je m'appelle Seguin. Donc, ma chèvre ayant été dévorée par le loup, j'ai un blocage sur le fromage de chèvre.
Bonjour. Monsieur le chevrier, bonjour.
Guillaume, enchanté.
Guillaume, chevrier?
Alors, c'est ma compagne, la chevrière.
Et voilà. Vous, votre compagne?
Bah, elle a la ferme, parce que les chèvres, ça reste du travail.
Il y en a qui bossent.
Et voilà.
Alors, pour vous réconcilier avec Monsieur Seguin, qui vend du miel à côté, vous faites des chèvres en forme de cœur. Ça, c'est sympa.
Pas toujours facile de se réconcilier avec lui, soyons honnêtes, mais...
On a presque envie d'en goûter.
Ça peut tout à fait se faire.
Ça vous dit, Vincent, le chèvre en forme de cœur?
Alors, forcément, il est un peu crémeux, vous risquez d'en avoir un petit peu sur les doigts, mais... J'espère que ça vous conviendra quand même.
Folie, hein, c'est de la bombe.
Merci.
La spécialité culinaire ici, dans le Morvan, moi j'ai entendu parler du crapiaud, j'aime beaucoup ce nom. Je sais pas ce que c'est.
Ah, le crapiaud, c'est une sorte de grosse crêpe dans laquelle on peut mettre tout plein de trucs, quoi. On fait revenir du lard dans la poêle, on met la pâte à crêpe par-dessus, mais on peut aussi faire des crapiauds sucrés avec, en faisant revenir des pommes, tout ça. C'est une espèce de crêpe rustique, on pourrait dire, quoi.
Et vous voyez, on rejoint la Bretagne avec la crêpe, la cornemuse et le granit. Franchement, il y a un truc. Hein.
C'est lié à la nature du sol, parce qu'en fait, ici, on cultivait beaucoup le sarrasin. Et donc, effectivement, le crapiaud, crépia, crépé, ça dépend des coins du Morvan où on est, en fait. C'était la base de nourriture pour les paysans. Quoi.
Solide.
Solide, c'est ça. Donc, c'est une grosse crêpe épaisse. Moi, je me rappelle de ma grand-mère, elle les faisait plutôt sucrées aux pommes. C'était noyé dans une... dans une tonne de beurre, voilà. Voilà.
Vous l'entendez à la cornemuse, Vincent Belin?
On entend bien la cornemuse qui nous appelle.
Vous voilà. Présentez vos élèves?
Donc, Gabriel.
Gabriel, bonjour.
Bonjour.
Bonjour, toi tu as quel âge?
12 ans.
Et donc tu joues de la cornemuse?
Oui.
À droite de Gabriel, on a...
Alors, à droite de Gabriel, on a Victor. Donc, lui, il s'appelle Victor Belin, c'est mon fils.
Ah.
Voilà.
C'était obligé qu'il fasse de la musique, votre fils, ou pas?
Ah, c'était pas du tout une obligation, non. Je l'ai pas forcé, en fait. Non, mais je pense que... Je sais pas si vous l'ont dit, mais je pense que comme c'est une histoire d'amitié aussi. Donc, ils sont copains, ils sont dans le même collège, ils se connaissent depuis qu'ils sont tout petits. Depuis qu'ils sont gamins, en fait, on les emmène dans les festivals, dans les... Voilà.
Et le troisième?
Alors, le troisième s'appelle Antoine. C'est le grand frère de Gabriel.
Bonjour.
Bonjour.
Antoine, toi, tu joues de...
L'accordéon. Il y avait un accordéon à la maison, bah, je me suis dit, je vais essayer.
Et vous jouez tous les trois ensemble après l'école, comment ça se passe?
Bah, des fois on se retrouve pour faire de la musique, comme à la fête de l'accordéon et à la fête de la vielle.
Est-ce que vous alternez jeux vidéo et musique?
Tout le temps.
C'est ça, GTA, musique trad.
Ouais, c'est ça.
Ça marche ensemble?
Ouais, ça va, il y a pire.
Qu'est-ce qui fait de la musique chez toi?
Enfin, quasiment tout le monde est musicien à la maison, à part les deux petites. Sinon, tout le monde fait de la musique. Bah, il y a mon père, il y a mon frère, il y a moi, il y a ma mère. Bah, je me suis dit, faut continuer de faire de la musique, sinon après, les instruments comme l'accordéon et tout ça, bah, ça va être oublié. Faire perpétuer la tradition.
Ça te plaît de perpétuer quelque chose?
Bah ouais, on transmet un peu des trucs aux générations d'après.
Et qu'est-ce que vous écoutez comme musique en dehors de la musique traditionnelle et de ce que vous apprenez avec Vincent?
Du rap.
Du rap?
Ouais.
Qu'est-ce que t'écoutes comme rap?
Kobalade, Zola, Nino, enfin plein de gens comme ça.
Bah on va vous écouter, nous. Qu'est-ce que vous allez jouer?
Une scottish.
Une scottish qui s'appelle Dans mon pantalon?
C'est ça, Dans mon pantalon.
Dans mon pantalon avec cornemuse, vielle à roue, accordéon. C'est quoi Dans mon pantalon, Vincent?
Dans mon pantalon, en fait, c'est une scottish. Voilà, c'est donc une danse de couple collectée, voilà, dans le Jura.
Dans le Jura?
Dans le Jura.
Ah ben, on y était dans le Jura.
Eh ben, allez, c'est parti pour la scottish Dans mon pantalon.
Bravo, on y était.
On aurait pu danser, hein. Il y a du monde autour de nous. Il y en a même, j'ai vu qu'on esquissait quelques pas de danse. En...
C'est vrai?
Oui, oui, derrière, là, il y en avait...
C'est bien de jouer au marché comme ça aussi, ça... Il y a un public, ouais. Quoi, on n'est pas tout seul.
Eh ben, ça donne des pistes d'idées, en tout cas, ouais. C'est peut-être quelque chose à relancer, effectivement, ouais.
Ce serait pas mal.
Effectivement. On va y réfléchir.
Merci.
De rien.
Merci. Nous, on va aller prendre l'apéro.
Ah, c'est une très bonne idée aussi. Le petit chablis, le petit chablis est très bon.
Ah bah le petit chablis, on l'a déjà goûté. Hein. Avec Vincent, on est tombé dedans.
Eh ben allez, on y retourne. Direction le Ptiozinc. Hein. Donc le Ptio, c'est le petit en patois. Hein. Le Ptiozinc, quoi.
Ah, d'ailleurs, on parle quelle langue ici? C'est le langue d'oeil, hein?
Alors c'est une langue d'oeil, c'est ce qu'on appelle le bourguignon morvandiau. Bah, qui est toujours parlé, hein. Il y a encore beaucoup de locuteurs. Hein,
vous le parlez, vous, Vincent?
Emso. Il peut causer Emso le patois.
Emso, c'est un peu.
Emso, c'est un peu, oui. Okay. On dit plutôt comme ça dans la Nièvre, parce que je suis originaire de la Nièvre, mais ici, il dirait plutôt Emso.
Emso. On est attendu pour aller boire l'apéritif dans un restaurant un peu particulier. Alors, qui fait de la réinsertion par le maraîchage.
C'est ça, c'est une association qui s'appelle la Barboulotte. Donc ouais. La Barboulotte en patois, c'est la coccinelle.
Et comment on dit en patois? On va écouter un disque.
Ah, bonne question. En fait, je crois qu'en patois, on n'écoute pas, on vit la musique.
Ah, bonne réponse. Mais qu'est-ce qu'on va écouter alors comme musique?
Alors comme musique, on va écouter José González, Vision.
Visions, trying to make sense of a now. Trying to make sense of a past. To show us how. Imagining the worlds that could be.
shaping almost like a face for all sentient beings. Visions, cycles of growth and decay, cascading chains of events with no one to praise or blame. Visions, avoidable suffering and pain. We are patiently itching away toward unreachable utopias. Visions, enslaved by the forces of nature, elevated by mindless replicators, challenged to steer our collective destiny. Visions, look at the magic of reality while accepting with all honesty that we can't know for sure what's next. No, we can't know for sure what's next, but that we're in this.
Vous êtes bien sur France Inter. Vous avez rendez-vous sur la place du marché à Saulieu.
Bonjour.
Bonjour.
Et vous êtes
Christophe Bonneau.
Vous êtes le fondateur, le président de cette association qui fait de l'insertion par le maraîchage et qui a un joli nom de coccinelle ici.
On dit la barboulotte.
La barboulotte.
Avec trois R.
La barboulotte.
Voilà, parfait.
Parfait. J'aimerais bien que vous me fassiez visiter l'intérieur de la barboulotte. Tout ça, c'est à vous. Tout ça, c'est vous qui l'avez pensé.
Alors, le bar existait. Il s'appelait déjà l'Optiozing. C'est pour ça qu'on a souhaité garder le nom.
Et surtout, votre spécialité ici, c'est que vous faites du maraîchage pour le restaurant du bar, des épiceries solidaires.
Des épiceries solidaires de la métropole de Dijon, autour d'ici. La campagne renourrit la ville.
Vous permettez à des personnes qui ont connu des moments de bascule, des moments un peu difficiles dans leur existence, oui, bouleversement, accident de la vie, bouleversement personnel, oui, de recréer une petite société ici, à Saulieu, et de les faire bosser par le maraîchage.
Le maraîchage et le restaurant, c'est à peu près ça. On appelle ça l'insertion par l'activité économique. Ils viennent chez nous, on les remobilise, on les forme, on leur apprend quelque chose et on les emmène vers l'emploi durable ou la formation qualifiante. 80% des salariés qui viennent chez nous, il y en a 25 aujourd'hui, c'est la reprise de confiance en soi. Planter, semer, récolter, distribuer, donner de son labeur dans un esprit solidaire, ça redonne de la perspective et ça redonne confiance.
C'est presque une conséquence du confinement, ici.
J'ai pensé ça en mars dernier, quand je vais à la grande surface et que je vois des choux-fleurs à 5 euros pièce. Je me dis, c'est plus possible que dans un environnement où on cultivait, où on travaillait, les gens qui gagnent peu n'ont même plus les moyens de s'acheter ne serait-ce qu'un chou-fleur. Mars dernier, j'ai pensé ça. En septembre, je crée l'association. On est 50, un samedi matin, à la Motte Ternant.
À côté de Saulieu.
On est 50 personnes dans une salle. Je me dis, il y a un truc qui marche là. Il y a un truc qui se passe et ça va le faire. L'État me suit. Et derrière, on crée l'association, la ferme de Barboulotte. Et puis aujourd'hui, il y a 25 salariés qui travaillent dans des champs. Je vais créer deux entreprises d'insertion.
Ça marche.
Même mieux que ce que je pensais.
Est-ce que vous voulez bien me présenter
Louis,
qui est à droite. Bonjour Louis.
Oui, salut. Bonjour. Donc j'ai commencé le 19 mai 2021 à la ferme Bourboulotte. Je suis au maraîchage, donc à Missery. J'ai commencé aux pommes de terre.
Oui,
l'implantation des pommes de terre à Pouilly-en-Auxois.
Ça pousse.
Planter, semer, désherber.
Voilà.
Et dans l'après-midi, je suis resté avec une collègue de travail pour faire du repiquage de choux.
Ça te donne quoi, cet esprit-là de replanter, de repiquer Tu y trouves quelque chose
Oui, parce que ça me remet le pied à l'étrier. je veux dire, je ne suis plus inutile. Avant, j'ai pas d'emploi. Et puis, sans être utile à la société.
Vous n'étiez pas inutile?
Non, j'étais pas inutile.
Ce n'est pas parce qu'on n'a pas de travail qu'on est inutile.
Oui, mais je me voyais, disons, je voyais les gens travailler, puis pas moi. Par le biais de la ferme Bourboulotte, je suis content parce que je suis en activité avec des autres personnes. Donc, en fait, on s'entraide, on est dans le social, on est tous contents d'être ensemble.
Je vous présente Vincent Belin.
Ben moi, je rejoins en tout cas tout à fait ce que disait monsieur, parce que pendant quelques mois, on n'a pas été essentiel, nous non plus, et c'était quelque chose quand même de difficile à vivre, quoi, de
se dire... Les musiciens non essentiels.
Voilà, c'est ça, à quoi on sert, en fait, dans cette société, quoi. Qu'est-ce qu'on peut apporter, qu'est-ce qu'on apporte, c'est exactement la même chose.
Sentiment d'inutilité.
C'est ça. Et en tout cas, je vous rejoins aussi sur un autre point, c'est par rapport à cette histoire de communauté, parce que justement, en termes de musique traditionnelle, on est dans une musique plutôt communautaire, c'est du lien social entre les gens, et je pense que, voilà, on a quand même beaucoup de points communs entre nous.
On est revenu en terrasse tout à l'heure, on est à l'intérieur du bar. Jean-Marc, vous nous avez rejoint, ça va toujours?
Ça va toujours, merci pour cette invitation.
Qu'est-ce que vous voulez boire?
Les bières sont locales. Hein.
Les bières sont locales?
Oui, donc Clamcy et Vito.
Eh ben alors, ça vous dit, Louis?
Oui, je veux bien, merci.
Un demi, oui, aussi, Edouard. Il y a des planches de charcuterie, donc charcuterie du Morvan, et puis de fromage. On travaille avec la fromagère de Saulieu, là, voilà. Produits locaux ou produits travaillés, en tout cas.
On va maigrir produits encore.
Identifiés. Oui, bien sûr.
Ah ben voilà, la planche de charcute qui arrive. Merci beaucoup, c'est très joli. Cette table est très sympa.
Oui, accueillante.
Un petit air de cornemuse, ça vous amuse?
Ah oui.
Ok, vous êtes pour?
Ah oui, pour. Pour, 200%.
Moi aussi.
Et pour que ça revienne plus souvent aussi.
Avec la cornemuse, on est dans un instrument très intéressant. On l'appelle en patois la panse d'oeil.
C'est tout, Jean-Marc?
Non, je suis loin de tout savoir. C'est fait avec de la peau de brebis. Et la panse d'oeil, l'oeil, c'est la brebis en patois. Et c'est un des plus beaux instruments, à mon avis, parce qu'il ne fonctionne que sur la circulation de l'air. Et l'air est tellement essentiel.
Allez, on respire avec vous. Merci beaucoup, merci à tous, on trinque.
Allez, à France Inter et à la Barboulette. Voilà. Merci beaucoup.
À France Inter et à la Barboulette.
Voilà, exactement.
C'est des Lossiens, c'est des Lossiennes. Merci à tous et à très bientôt sur France Inter ou...
ailleurs, sur la Terre.
Cette émission a été réalisée par Benoît Thuot. Elle a été préparée avec brio par Marion Philippe et notre stagiaire Julien Martin. Rien n'aurait pu se faire sans la maman de Marion Philippe, Myriam. Merci beaucoup. La programmation de cette émission, c'est Djoubaka. Et vous pouvez réécouter et podcaster Rendez-vous Place du Marché sur le site de France Inter. Demain, vous retrouvez Antoine Lee à Sainte-Marie. On sera en Martinique.
À l'Arvoyotte.
À l'Arvoyotte.
À l'Arvoyotte. À l'Arvoyotte.